Rebonjour à tous, auditeurs, auditrices, frères et sœurs en Christ de la Radio Adoration. Bienvenue dans cette deuxième partie sur l'avènement du Seigneur Jésus dans le cadre de cette édition sur la situation du coronavirus actuellement qui vise à nous aviser, à nous avertir de la venue imminente de Jésus comme au travers toutes les autres catastrophes que nous avons pu vivre au travers le monde au fil des siècles du temps qui avance toujours, toujours et toujours, mais une chose est certaine, Jésus est sur son retour pour très bientôt. Dans la précédente émission, la première partie, eh bien, nous nous sommes posé quatre questions. Je vous ai posé quatre questions. Avez-vous hâte au retour de Jésus? Êtes-vous excité par son retour? Comment entrevoyez-vous son retour? Et comment considérez-vous celui-ci? Ou anticipez-vous celui-ci? Nous avons également appris donc que le retour de Jésus est imminent, mais que les premiers disciples, eux, le voyaient comme imminent déjà à cette époque. Et donc, leur vie consistait simplement à prier, espérer, attendre et veiller pour voir Jésus revenir, les chercher, ce qui ne s'est pas passé. 2000 ans et plus se sont écoulés depuis ce temps et Jésus n'est toujours pas revenu. Et là, dans cette optique, nous avons tous, un jour ou l'autre, eu cette question à l'esprit qui dit « Non, mais depuis tout ce temps, Jésus n'est jamais revenu. Va-t-il revenir un jour? » Et pour certains, ces choses sont devenues une occasion de chute, une occasion de doute, une occasion de se détourner de leur foi et de cesser d'espérer malheureusement. Mais une chose est certaine, Jésus est sur son retour et Dieu nous parle justement au travers de ces événements qui s'appelle coronavirus actuellement, et tous les événements également qui entourent tout ça, les bouleversements sociaux, politiques, les bouleversements professionnels, familiales, les morts, les milliers de morts, l'angoisse, la détresse, la peur, eh bien, c'est pas une chose qui est plaisante, mais en même temps, c'est un message divin que Dieu nous envoie pour nous aviser, nous préparer, nous dire, « Voici, je reviens bientôt, préparez-vous. » À mon retour, dans la deuxième partie de l'émission, cette fois, eh bien là, nous allons continuer d'explorer le retour de Jésus, mais décortiquer d'une façon un peu différente. Vous allez comprendre pourquoi au fil du temps. Le Seigneur Jésus, eh bien, en définition, c'est Dieu qui est venu, qui s'est fait chair, qui est venu sur terre pour vraiment savoir comment les choses sont sur terre. Qu'est-ce qu'un humain peut ressentir lorsqu'il touche à quelque chose, lorsqu'il est malade, lorsqu'il a mal, connaître des émotions, parce que Dieu ne connaissait pas ces choses. Il les avait créées, mais il ne les avait jamais vraiment vécues, comme nous le vivons, nous, au travers la chair. Et Dieu est descendu de son trône. Il a pris l'enveloppe charnelle de Jésus, conçue à partir de l'esprit et de la chair, et est venu en être humain sur cette terre pour vraiment être près de nous, vivre comme nous, mourir pour nous. Le Seigneur Jésus, qui a été méprisé et rejeté des hommes, viendra pour être glorifié cette fois-ci par ses saints, par nous. La Bible, lorsqu'elle parle des chrétiens, elle nous appelle saints et admirés dans tous ceux qui auront cru. Le monde l'a vu pour la dernière fois cloué à la croix. Et pourtant, le monde l'a vu cloué à la croix, avec sur son front une couronne d'épines, sans même gémir, sans même se plaindre, sans même rien dire, mais priant encore sur la croix pour nous. Eh bien, le monde va bientôt revoir Jésus revenir. Jésus assis sur son trône de jugement, couronné cette fois de gloire et d'honneur. Vous savez, si on revient à la parabole du serviteur et de son maître, le maître qui tardait à venir, je vous en ai parlé dans la première partie de l'émission, eh bien, on n'a pas à se soucier si cette parabole est vraie, si de la façon dont les choses sont expliquées sont véritables. Peu importe, ce qui est important à comprendre ici, c'est que l'attente du Seigneur caractérise la foi chrétienne, la foi du chrétien. Ceux qui se disent donc des serviteurs, comme dans la parabole, dans la maison, comment se conduisent-ils pendant l'absence du maître? Telle est la question. Seulement ça, on peut se poser comme question. Le Seigneur, à la fin du chapitre 24 de Matthieu, les distingue en deux classes, l'esclave fidèle et l'esclave méchant. Le premier entre dans les pensées de son maître et cherche à accomplir sa volonté. L'autre marche comme son cœur le mène, autrement dit par sa chair, en se séduisant par la pensée que son maître tarde à venir. Et ça, c'est souvent le cas de plusieurs personnes et également plusieurs chrétiens. Moi-même, je suis passé par là. Je ne me disais pas à chaque fois, « Ah bon, le Seigneur tarde à venir, je peux faire ci, je peux faire ça. » Non, c'était plus, cet aspect-là était plutôt inconscient, dû à une négligence. Mais n'empêche qu'il y avait toujours ce sentiment de dire, « Ah, j'ai le temps. Ah, j'ai le temps. » Mais cette forme de pensée est aussi un piège à l'occasion. Oui, il y a la grâce, mais il faut faire attention parce que Jésus peut revenir à tout moment. Alors que si on se fait prendre dans un état de péché, c'en est fini pour nous. Et c'est là que nous devons être des esclaves fidèles qui entrent dans les pensées de notre Maître, le Seigneur Jésus. Vous savez, le retour de Jésus est un retour certain, très certain même. Remarquons toutefois que le Seigneur ne laisse pas place pour le moindre doute au sujet de son retour. Et même dans le cas de l'esclave méchant dans la parabole, celui-ci n'est pas présenté comme niant le fait du retour de son maître, mais son cœur, malheureusement, n'est pas attaché à la personne de Jésus, ni soumis à sa parole. Et ça, c'est un peu l'explication que je vous donnais justement il y a quelques secondes. En fait, il éloigne dans son esprit le moment où son Seigneur reviendra, afin d'avoir plus de marge pour se conduire comme il le veut. Et c'est une situation dans laquelle on ne peut plus vivre. On ne peut plus se permettre ses largesses. Le fait du retour du Seigneur est positivement annoncé. Son effet sur le cœur de l'esclave est examiné. Là où l'attente du Seigneur existe, elle produit en quelque sorte un résultat qui met en évidence, comment est-ce que je pourrais dire ça, la fidélité, le dévouement de l'esclave à son maître. Lorsqu'elle n'existe pas, eh bien l'esclave, lui, alors livré à sa propre volonté, se prépare un jugement qui lui assignera une part avec les hypocrites tels que la Bible le dit. Un sort terrible de celui qui n'est chrétien que de nom. C'est certain que peut-être pour plusieurs, il devient difficile de croire au retour de Jésus, vu tout le temps qui a passé depuis que ces prophéties ont été faites. Déjà que les disciples du temps de Jésus espéraient son retour de leur vivant, alors imaginez maintenant. Et c'est normal, frères et sœurs. Mais en effet, il n'est pas encore venu, l'Esprit de Dieu a prévu la difficulté et y a répondu d'avance. Par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9. « Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimée. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns en estiment, mais il patiente envers tous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voilà pourquoi on lit aussi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, verset 37, « Car encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra. Il ne tardera pas. » Voyez-vous, l'attente du retour de Jésus se résume à une espérance de voir cet événement de son vivant. Tout ça en maintenant une relation personnelle fidèle de cœur avec lui, et non pas une explication ou une recherche détaillée des jours et des années qui doivent s'écouler avant que le Seigneur apparaisse. Qui oserait dire que l'apôtre Paul s'est trompé? Lorsque il se rangeait parmi nous les vivants, ce sont ses paroles, il disait « nous les vivants, qui resteront jusqu'à la venue du Seigneur ». 1 Thessaloniciens 4, 17. Qui oserait dire que l'apôtre Paul s'est trompé? Abraham, à l'époque, lui n'attendait pas le retour de Jésus, mais il attendait le pays promis. Abraham n'a jamais reçu le pays promis. Il l'a vu de loin, par la foi. La possibilité de la mort ne prive pas le croyant de la joie d'attendre son Seigneur. Il ne rend pas non plus moins brillante la part qu'il aura au jour de la manifestation de Jésus. Mais cependant, nous devons aussi être lucides et constater que plusieurs enfants de Dieu ont souvent le chronomètre à la main pour compter le temps qu'ils ont pour faire telle ou telle chose qui n'est pas toujours en conformité avec la Bible. Souvent, et parfois également, c'est inconscient. Il faut le dire. Souvent, les phrases qui reviennent sont, en se basant sur les faits bibliques, qu'ils ont encore du temps avant la venue de Jésus, car certaines prophéties restent encore inaccomplies. Et qu'un jour, justement, est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour pour Dieu. Mais songez à une chose. Si la mort vous surprenait dans les 15 prochaines minutes, ou dans une heure, ou demain, et que vous êtes dans une situation inconfortable de péché, si la mort vous surprenait, vous attendez le retour de Jésus avec une foi incroyable, mais en même temps, vous avez des petits penchants qui ne sont pas réglés. À un moment donné, vous êtes dans un de ces penchants, et bam, la mort arrive. Même si vous attendiez le retour de Jésus, eh bien, c'en est fait. La vie éternelle se prépare de notre vivant. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Nous ne pouvons pas raisonner avec justesse sur des choses qui nous sont cachées et qui sont par conséquent en dehors de notre portée. Ce qui regarde le temps et la manière de le compter est entre les mains de Dieu le Père seul. Et les choses révélées sont pour nous. Et il est de la dernière importance de savoir comment le Seigneur parle de sa venue, de quelle manière il la présente. Et il y a maintes et maintes et maintes informations dans la Bible qui nous dressent un portrait. Partout, nous trouvons sa venue comme une chose imminente, qui peut arriver à tout moment, qui pouvait avoir lieu du vivant de ceux qui écoutaient les discours du Seigneur et qui furent les témoins de son ascension dans le ciel. Et c'est ainsi qu'il voulait que les témoins et les disciples comprennent sa venue également lors de son ascension. Déjà là, il avait déjà projeté une image. C'est là aussi l'impression que les paroles des anges devaient laisser dans l'esprit des disciples qui, rappelez-vous du haut de la montagne des Oliviers, regardaient fixement vers le ciel, tandis que le Seigneur Jésus y montait. Acte 1, versets 10 et 11. Les anges dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Wow! Une foi simple dans la promesse produira nécessairement dans le cœur du croyant un état d'attente puissamment efficace pour le maintenir avec son Sauveur. Dans cette communion qui devient un peu la raison, non pas un peu, mais pleinement, la raison de sa vie et la source de sa joie, ainsi que son encouragement dans les temps difficiles qu'il peut y avoir à traverser au cours de sa vie sur terre, et l'importance de se confier dans le Seigneur en remplissant sans cesse notre réserve d'huile, et être reconnaissant tout le temps dans le Seigneur. Parce que des moments difficiles, il y en a eu, il va en avoir, et il y en a actuellement. Et c'est encore plus le temps, justement, de se confier dans le Seigneur, en se confiant en lui, en le glorifiant, en démontrant notre reconnaissance. Oui, en démontrant notre reconnaissance et en recherchant son Saint-Esprit afin de faire des réserves d'huile. C'est ainsi qu'est présenté, justement, dans le Nouveau Testament, l'attente du Seigneur. Un lien pratique entre l'enfant de Dieu et celui qui l'a rejeté. Il lui a révélé le Père. Ça, c'est le symbole du chrétien. Voyez-vous, je vous parlais d'huile il y a quelques instants, et tout ça, ça me fait songer un peu à la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, c'est la réalité de la foi, de la vie chrétienne actuelle. Matthieu 25, 1 dit, « Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. » Posons-nous un instant cette question. Pourquoi ces vierges sont-elles sorties? Est-ce que c'est pour faire du bien au monde? Pour y soulager la misère? Pour y opérer quelques grandes œuvres? Là, eh bien, je ne veux pas dire ici que le chrétien n'a pas accompli de telles œuvres, bien loin de là, mais elles ne sont que le résultat, la conséquence de la vie qui l'anime au travers de sa relation avec le Seigneur. Ça, c'est un réflexe naturel lorsqu'on est en relation avec le Seigneur. Non, on ne voit rien de semblable. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Voilà le but de leur sortie. C'est pourquoi aussi elle porte des lampes. Il est aussi vrai que toutes les vierges ne sont pas prudentes. Elles ne sont pas toutes prudentes. Extérieurement, il n'y avait pas de différence à remarquer entre les prudentes et les folles. Toutes elles sont vierges, toutes elles ont des lampes, toutes elles sont sorties à la rencontre de l'époux. Pour ceux qui regardent dehors, elles ont le même caractère de pureté aux yeux des hommes. Elles ont la même foi, le même but. Et comme on le voit dans la suite de la parabole, elles tombèrent tous de la même manière, en même temps, dans le manque de vigilance. Car, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Alors, ce qui distingue les prudentes des folles ici est une chose secrète, cachée, connue de Dieu seulement, non des hommes, qui ne voient que l'extérieur. C'est que les prudentes, elles, avaient dans leur vaisseau une provision d'huile supplémentaire nécessaire pour alimenter leur lampe. L'existence de cette provision est constatée lorsqu'à minuit, le cri se fait entendre. Lorsqu'on entend « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Le Seigneur, alors dans sa grâce, ne permet pas que les vierges dorment jusqu'au moment de son arrivée, afin d'éviter qu'ils ne les trouvent dans le sommeil. C'est un peu comme l'avertissement divin. Elles sont éveillées par le cri de minuit, et alors elles préparent leur lampe. Les vierges folles commencent alors à se rendre compte de leur erreur. Mais hélas, trop tard. La parabole continue ainsi. Et les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, « Non, on ne peut pas, de peur qu'il n'y ait pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, eh bien, comme elles s'en allaient pour en acheter, c'est alors que l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces et la porte fut fermée. Ensuite arrivèrent aussi les autres vierges, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais lui répondant, dit alors « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajoute le Seigneur, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Préparez vos lampes. » Vous savez, on ne se procure pas de l'huile en chemin pendant le moment et lorsque tout est bousculé, lorsque c'est le désordre. D'abord, on ne s'en soucie pas. Et puis, lorsqu'on a envie d'en avoir, il est trop tard. Lorsque la foi est mise à l'épreuve, à l'approche de l'époux lui-même, rien ne peut faire briller la lumière si ce n'est que le Saint-Esprit. Or, Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, c'est l'huile dans la lampe. Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui obéissent. Et c'est là la vérité centrale du christianisme, d'être chrétien, et ce qui le distingue du reste. Le don du Saint-Esprit dépend non seulement de l'œuvre de la rédemption accomplie et pleinement annoncée, mais aussi de l'attente du retour de Jésus. Possédez-vous cet esprit, chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices? Vous savez, ne songez pas à vous mettre en route sans l'avoir. Ne vous contentez pas d'une vaine profession de foi. Croire sans agir, agir sans croire. Ne vous contentez pas d'une lumière qui s'éteindra au moment même où vous en aurez le plus besoin. Faites des réserves d'huile. Et Dieu nous parle au travers ces événements actuels, justement, frères et sœurs en Christ. Et il nous dit de faire non seulement des provisions pour la maison, mais de faire des provisions d'huile également pour notre âme. Parce que le Seigneur Jésus approche. Remarquons encore que les vierges qui sont éveillées et qui entrent aux noces sont les mêmes qui s'endormirent au commencement. Ce n'est pas une génération nouvelle. Or, il est constaté dans l'histoire de la chrétienté que l'attente du Seigneur a été perdue de vue très tôt. Nous avons donc dans cette parabole une invitation très sérieuse à s'examiner, à savoir si nous sommes réellement prêts à le recevoir. Oui, peut-être que tu t'es endormi. Moi aussi, je me suis endormi à l'occasion. Mais nous avons une opportunité incroyable actuellement parce que Dieu nous crie. Dieu nous envoie un cri de minuit à nous aussi également au travers de ce qui se passe pour nous dire « Réveillez-vous, l'époux approche. » En résumé, donc, nous voyons que la position de tous ceux qui disent croire en Christ porte nécessairement un cachet particulier par le fait que le Fils de l'homme vient et que, sous ce caractère, le Seigneur Jésus demandera compte de tout ce qu'il trouvera sur la terre et il le jugera. Nous voyons donc également que pour le vrai croyant, personnellement et véritablement uni à son Sauveur, la venue du Seigneur est ce qui doit former et remplir ses pensées, régler ses affections, soit son attachement et sa tendresse envers Dieu, et stimuler l'ardeur de celui qui l'attend véritablement. Nous voyons également que cette venue met en évidence la foi vraie, réelle, véritable, fidèle de l'enfant de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit. Elle manifestera en même temps la vanité de la profession de la foi de celui qui conserve les dehors de la piété sans que son cœur soit réellement soumis à Christ. Et elle amènera en jugement celui qui, tout en professant être chrétien, marche d'après les penchants de son cœur et dont le pouvoir de la chair et ses convoitises du monde l'amènent à aller toujours de plus en plus loin. Chers auditeurs, auditrices, frères et sœurs en Christ, le retour du Seigneur est proche. Où en êtes-vous à cet égard? Êtes-vous, dans ce moment, un enfant de Dieu heureux dans la pensée que votre Sauveur vient, excité, qui est fébrile, qui, au son de la trompette, va sauter de joie? Ou êtes-vous un de ces méchants serviteurs qui se berce de la pensée fausse et trompeuse que le Maître tarde à venir? Ou bien êtes-vous de ces moqueurs qui sont signalés dans les Écritures de ceux qui marchent selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de sa venue? » La venue du Seigneur n'en est pas moins sûre parce que quelques-uns la nient. Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par la parole de Dieu pour le feu, gardés pour le jour du jugement et la destruction des hommes impies, nous dit 2 Pierre 3:7. Profitez donc, chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, de ce moment de grâce qui vous est donné en ce temps trouble, ce temps d'angoisse, de détresse, de peur, de bouleversement social, économique, mondial, sanitaire que nous vivons par cette pandémie mondiale et qui a bouleversé notre quotidien à jamais. Profitons-en pour trouver grâce, demander pardon à Dieu, l'implorer, se rapprocher de lui, se repentir, retourner à lui, vivre pour lui, chercher sa face, obéir, se convertir à chaque jour. Se convertir à chaque jour. Martin Luther avait dit cette parole. Je dois me convertir à chaque jour. Et c'est vrai, frères et sœurs en Christ, que chaque matin, lorsqu'on se lève, il faut reformater, reprogrammer nos pensées en Christ, se reconvertir à chaque jour, à chaque instant. Le temps est court. Réfléchissez, je vous en prie. À votre état actuel, Dieu connaît vos pensées. Vous ne pouvez pas vous cacher. Sauvez-vous donc de cette génération perverse et venez au Seigneur pour avoir la vie, pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens 1:10. Je vous repose encore les questions. Avez-vous hâte? Avez-vous vraiment hâte au retour de Jésus? Êtes-vous excité à son retour? Comment entrevoyez-vous son retour? Comment considérez-vous celui-ci? Comment anticipez-vous ce jour? Êtes-vous comme moi excité, fébrile, au son du chauffard, au son de cette trompette que je vous ai fait entendre? Êtes-vous fébrile? Moi, malgré mes imperfections, frères et sœurs en Christ, malgré le fait que je dois me convertir, me reconvertir à chaque jour, même 10 fois par jour, malgré le fait que je dois me repentir, demander pardon, demander grâce à Dieu, 20 fois par jour, pour trouver grâce à ses yeux. Eh bien, lorsque j'entends ce son, lorsque j'imagine ce moment, j'en parle actuellement, j'ai la chair de poule. Il y a une fébrilité. Il y a une joie. Il y a une anticipation heureuse qui vient, qui me transporte. Même si je ne sais pas comment, quel feeling je vais ressentir lorsque je vais monter rejoindre mon sauveur. Peut-être que c'est comme lorsqu'on va dans les montagnes russes et que la montagne russe monte et que à un moment donné, ça descend. On a un feeling, une montée d'adrénaline extrême. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, peut-être que c'est encore 10 fois mieux que ça, 100 fois mieux que ça. Lorsque je vais poser les pieds sur la nuée à côté de Jésus, waouh, comme un enfant d'admiration devant son papa, ou encore un fan fini, je ne sais pas. Et encore là, quel sera le feeling, l'émotion, lorsque les portes ouvriront devant le royaume des cieux et qu'on va entendre dire de la voix de Jésus lui-même, « Bienvenue chez toi. » Wow! Jésus. Wow, Jésus. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci pour ce moment incroyable, Seigneur, que tu nous as fait vivre, que tu m'as fait vivre. À moi, en tout cas, c'était incroyable de pouvoir annoncer ton retour, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le faire vivre aux gens. Merci d'avoir déversé ton onction sur moi, d'avoir pris le contrôle de ma bouche, de mes paroles, de mes pensées, d'avoir dirigé mes pas. Merci également d'avoir pourvu à ce que tout le contexte technique fonctionne bien aujourd'hui. C'est incroyable, Seigneur Jésus. Merci. Toutes ces choses me prouvent, Seigneur, que tu es vraiment derrière ce message. Et je te demande de bénir, de toucher tous ceux et celles qui entendent ce message, qui vont entendre ce message. Je te prie de les toucher, de guérir ceux qui ont besoin de guérison, de restaurer ceux qui ont besoin de restauration, de remplir ceux qui ont besoin d'être remplis, de donner la force à ceux qui ont besoin de force, l'intelligence à ceux qui ont besoin d'intelligence, la sagesse à ceux qui ont besoin de sagesse, ton Saint-Esprit à ceux qui ont besoin du Saint-Esprit. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci à tous, auditeurs, auditrices, frères et sœurs en Christ, pour votre présence à cette émission podcast de Radio Adoration sur l'avènement du Seigneur. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fasse grâce de son Saint-Esprit, de son onction. Que l'Éternel également, en ces moments troubles, ces moments de ténèbres obscures, angoissants, remplis de détresse, de peur, illumine votre sentier et allume la lumière dans vos cœurs afin que tous ces sentiments qui ne sont pas de Dieu, angoisse, peur, stress, crainte, doute, rage, haine, disparaissent de vos cœurs et fassent place à une paix céleste intérieure dans vos cœurs. Et que l'Éternel également vous immunise, frères et sœurs, contre toute attaque de l'ennemi, contre toute maladie, tout virus, tout microbe, toute bactérie, naturelle, surnaturelle et spirituelle, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, frères et sœurs en Christ, de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour la prochaine émission très bientôt. Bye bye.